Vous êtes sur RTL.
Aude Vernuccio,
RTL Grand Soir.
Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce 26 juillet, on savait qu'elle était à risque pour les coureurs, mais on était loin de s'imaginer un tel scénario. 19e étape cataclysmique sur le Tour de France. Pinot abandonne, Alaphilippe à la traîne perd son maillot jaune et pas de ligne d'arrivée. La grêle a chamboulé le classement. Demain, 20e étape raccourcie en raison de la météo. Au lendemain de la canicule, paysage de désolation dans plusieurs régions de France, température extrême et sécheresse, un cocktail qui a brûlé 6500 hectares de végétation et de culture. Reportage en Meurthe-et-Moselle à suivre. Les mobilisations n'ont pas eu raison des chiffres depuis hier soir. On compte 81 féminicides depuis le mois de janvier en France, un nouveau cas à Vénissieux. Les représailles sanglantes de Donald Trump, le président américain menace de taxer le vin français. On ira aux États-Unis dans un instant. Un journal, un loto et un billet de train. Il suffira désormais de descendre au tabac pour partir en vacances. Nouveau dispositif proposé par la SNCF. Et puis une météo à la fin de ce journal.
RTL Grand Soir, Aude Vernuccio.
Le Tour de France stoppé dans les Alpes à cause de la météo. Les coureurs n'ont même pas pu passer la ligne d'arrivée à cause d'un violent orage de grêle. Vertigne, la grande boucle contrainte d'arrêter la course. Les temps ont été pris au sommet de l'Iseran. Christian Olivier, ça donne un podium pas comme les autres pour cette 19e étape.
Eh oui, vous savez, le Tour de France ne s'arrête jamais. Et si l'étape a en effet été stoppée à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée à Tignes, c'est une grande première dans l'histoire du Tour, eh ben, il faut repartir demain et avec un maillot jaune et puis avec aussi les autres tuniques distinctive. Aussi, une fois la décision des organisateurs prise à hauteur de Val d'Isère de figer les positions lors du passage au sommet de l'Iseran, eh bien, tous les rescapés sont descendus de vélo, se sont engouffrés à la va comme je te pousse dans les véhicules mis à disposition, direction les hôtels de Tignes, pour la majorité d'entre eux, et un podium sans vainqueur d'étape, mais avec les quatre grands classements du Tour de France. Le vert pour Sagan, le maillot à poids pour Bardet, le maillot blanc de meilleur jeune pour Egan Bernal, et le maillot jaune également pour le coureur colombien, après une longue embrassade avec son papa. Egan Bernal, songeur, interrogatif, comme s'il ne comprenait pas encore ce qui s'était produit à hauteur de Val d'Isère avec ses routes recouvertes de grêle, d'eau et de pierre. Traduction en direct de Laurent Jalabert.
La vérité, c'est que je suis super heureux. C'est incroyable. C'est une sensation incroyable. Mais demain, ce sera une étape très difficile. Nous allons travailler très fort avec l'équipe pour pouvoir garder ce maillot jaune avec nous. Je veux arriver à Paris en jaune pour la Colombie. Je serai le premier Colombien a remporté le tour.
Demain, montée vers Val Thorens et situation en effet qui sera probablement contrôlée par Egan Bernal. Deuxième, Alaphilippe à plus de 40 secondes. Thomas et Kreuzvik à plus d'une minute. Classement très officieux se partageront les accès sites sans Thibaut Pinot, blessé à la cuisse depuis 48 heures. Il a abandonné en larmes et inconsolable ce soir.
Christian Olivier pour RTL. Demain, la 20e étape sera ramenée à 59 km en raison des conditions météo. Annonce ce soir des organisateurs. Alerte orange aux orages dans plusieurs départements. On y reviendra dans un instant. L'étape partira demain d'Albertville, trois quarts d'heure plus tard que prévu. Non pas à 13h45 en direction de Montier, mais à 14h30. Alaphilippe donc qui perd le maillot jaune, on le disait. Et cette image déchirante. Thibaut Pinot en larmes. Le coureur blessé à la cuisse depuis plusieurs jours a été contraint d'abandonner la course. Lui, qu'on imaginait déjà en jaune sur les Champs-Élysées ce dimanche. On l'écoute.
Depuis hier... J'ai ressenti une douleur très vive dans le vaste interne, comme une déchirure. Hier, j'ai serré les dents comme je pouvais. Et voilà, ce matin, j'avais très mal. Et puis, ça n'a pas tenu, quoi. Non, mais je me suis toujours battu. Mais je sentais que depuis dimanche, dans les Pyrénées, j'étais capable de le faire. Et sans ça, je suis sûr que vous l'aurez fait. J'en étais convaincu, rien ne peut m'arriver. Mais on ne le saura jamais.
Thibaut Pinot contraint d'abandonner le Tour de France, propos recueillis par Quentin Vinet pour RTL. Du football ce soir, d'abord en Ligue 1 avec cette victoire de Brest, les Brestois qui se sont imposés face à Rennes 1-0 en match amical. De la Ligue 2 aussi, c'était la reprise ce soir. Rodez s'est imposé 2-0 face à Auxerre. Match nul 3 partout entre Guingamp et Grenoble. Et puis le petit Pousset, Chambly, a finalement battu Valenciennes 1-0.
Aude Vernuccio,
RTL Grand Soir.
La canicule globalement bien gérée dans les services hospitaliers, se félicite le gouvernement, mais les pompiers, eux, accusent le coup. 6500 hectares ont brûlé en France dans la journée d'hier, des départs de feu dans le centre, en Normandie, dans les Hauts-de-France, 2000 hectares rien que dans cette région. En Meurthe-et-Moselle également, ce sont 572 hectares de cultures et de végétation qui ont brûlé, du jamais vu pour les pompiers, Samuel Goldschmidt.
Oui, depuis le 1er juillet, le lieutenant Thomas Loison compte 145 interventions pour des feux de végétation en Meurthe-et-Moselle contre 85 en 2018 et cela risque de continuer.
Premièrement, on a une période de sécheresse prononcée, une canicule avec des températures qui vont 39, 40, 41 degrés, plus un vent qui en plus est très chaud, donc qui sèche encore plus la végétation. À côté de ça, vous ajoutez la période de moisson avec une forte activité agricole, les machines qui tournent très fort, très longtemps et qui ne sont pas nécessairement habituées avec énormément de poussière. Et ensuite, on a aussi des départs de feu liés à des imprudences humaines, gel de mégots, de barbecue sauvage, etc., où il faut faire très attention.
En début de semaine, Frédéric Dron en a été victime à la ferme Saint-Louis à Varangéville.
Oui, je moissonnais. J'étais à l'autre bout du champ quand j'ai vu le tracteur et la benne qui brûlait. J'avais un extincteur sur la moissonneuse. J'ai même pas essayé d'éteindre. Les pneus du tracteur brûlaient. Et j'ai fait le 18. Et j'appelle mon frère en même temps qui vienne avec un vibroculteur pour qu'on puisse faire un pare-feu pour mélanger la terre à la paille de manière que les flammes ne brûlent plus la paille. Ça brûle très vite.
Réflexe salué par les pompiers qui savent qu'ils resteront d'alerte, ce ne sont pas quelques orages annoncés qui pourront humidifier suffisamment les champs complètement grillés.
Samuel Goldschmidt pour RTL a noté que 27 départements sont maintenus en vigilance orange pour canicule et orages, des orages localement violents qui vont s'abattre dans l'est de la France et les régions centrales. Dans le reste de l'actualité, 3 enfants portés disparus retrouvés aujourd'hui. Ils avaient été confiés par leur mère marseillaise à une vague connaissance, une jeune femme de 15 ans. Les enquêteurs ont localisé les enfants dans un appartement de Montpellier avec un homme de 30 ans. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue. La vidéo avait choqué l'opinion publique. Souvenez-vous, 151 jeunes avaient été interpellés et parqués à genoux, les mains sur la tête pendant plusieurs heures. Interpellation suite à des manifestations lycéennes en décembre dernier. Eh bien, la police des polices qui enquêtait sur l'opération, l'IGPN, a classé l'affaire sans suite. C'est le 81e féminicide de l'année. Elle s'appelait Bernadette, habitait Vénissieux. Hier, elle se rendait au travail lorsque son mari l'a percutée en voiture contre un mur. L'homme était poursuivi en justice pour violence conjugale. Il avait interdiction de l'approcher, mais le drame n'a pas pu être évité. Bertrand Frachon.
La victime, âgée de 43 ans, se prénommait Bernadette. Elle était, d'après nos informations, originaire de la Martinique. Elle travaillait depuis près de 2 ans dans la société Carso, un laboratoire installé dans la zone industrielle de Vénissieux. Ce matin, ses collègues sont sous le choc. Un seul a accepté de nous dire quelques mots.
C'est quelqu'un de bien, voilà, c'est quelqu'un de bien. 18 mois qu'elle est avec nous, passage au CDI la semaine dernière. Discret, sérieuse.
Elle vous avait fait part de menaces ?
Non. D'ailleurs, le site, on va le fermer, là, on est sur le choc.
Dans une entreprise voisine de la zone industrielle, un salarié a assisté à une partie de la scène hier matin. Il témoigne.
Alors, en arrivant, il y avait 4 à 5 voitures de police qui étaient stationnées, avec le SAMU, un camion de pompiers, et puis il y avait une personne qui était allongée le long du bâtiment, en fait. Je pensais que c'était quelqu'un qui avait fait un malaise, si vous voulez, compte tenu de la chaleur. Par la suite, après, on a appris que c'était une pauvre dame qui s'était fait renverser par son ex-compagnon. Il n'y a rien qui peut expliquer un tel acte, quoi. Séparation, mésentente, c'est horrible.
L'entreprise où travaillait la victime devrait rester fermée aujourd'hui. Le compagnon et bourreau de la victime est toujours en garde à vue au commissariat de Villeurbanne.
Bertrand Frachon à Vénissieux pour RTL. À Rouen, la marche blanche en hommage à Mamoudou Barry a rassemblé des centaines de personnes aujourd'hui. Cet enseignant, chercheur guinéen, est décédé la semaine dernière, roué de coups par son agresseur. C'est la douche froide pour les salariés de Whirlpool à Amiens. L'usine est toujours à l'arrêt. Plus qu'une seule offre de reprise est sur la table, celle d'AG 44 salariés restent en poste seulement, 126 sont licenciés. Syndicats et personnels ont protesté en début d'après-midi contre le patron de WN dans l'échec 8 mois après la reprise de l'entreprise.
RTL Grand Soir, Aude Vernuccio.
RTL, il est 22h09. On connaissait les tweets imprévisibles de Donald Trump, mais celui-ci est particulièrement violent. Le président américain dénonce la stupidité d'Emmanuel Macron ce soir. Il menace de taxer le vin français. Dans le viseur, la proposition de loi votée à l'Assemblée pour taxer les GAFA, les géants du numérique. Google, Facebook, Amazon devront reverser 3% de leurs revenus. Et ça n'a pas plu au président américain. Résultat, des représailles. Pauline Simonet.
Les mots du président américain sont forts. Donald Trump est sorti de ses gonds après l'annonce de la mise en place d'une taxe française visant les géants américains du numérique. Il dénonce, je cite, la stupidité du président français. Si quelqu'un doit taxer ses entreprises, affirme Donald Trump sur son réseau social préféré, ce sont les Américains. Le président des États-Unis menace ensuite la France de représailles. J'ai toujours dit que le vin américain était meilleur que le vin français. Nous annoncerons bientôt une action réciproque substantielle après la stupidité de Macron, conclut-il. Le mois dernier, la Maison-Blanche avait déjà menacé d'infliger des taxes douanières supplémentaires sur le vin français pour corriger une concurrence jugée déloyale. Donald Trump n'en est pas à ses premiers tweets agressifs contre le président français, dont il moque régulièrement la cote de popularité en berne, mais il a passé un nouveau cap dans les insultes. La lune de miel entre les deux hommes avait pris fin faute d'accord sur le nucléaire iranien et sur les questions commerciales. Engagé dans un bras de fer avec l'Union européenne, Donald Trump menace également le secteur de l'automobile.
Pauline Simonet, correspondante d'RTL aux États-Unis. La France qui ne se laisse pas impressionner. Nous mettrons en œuvre les décisions nationales, rétorque ce soir Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Emmanuel Macron quittera lui demain le fort de Brégançon pour se rendre aux obsèques du président tunisien. Beji Caïd Essebsi est décédé hier à l'âge de 92 ans. 62 corps repêchés au large de la Libye. Hier, 100 personnes étaient portées disparues après le naufrage d'une embarcation de fortune. 135 autres ont été secourus par les gardes-côtes. C'est la pire tragédie de l'année en Méditerranée, d'après l'Organisation internationale pour la migration. Parallèlement, plus d'une centaine de réfugiés sont bloqués dans les eaux italiennes. Le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, exige un accord de répartition à la Commission européenne avant de les débarquer.
RTL Grand Soir.
Avec Aude Vernuccio.
Un jeu à gratter et un billet pour Angers. Voilà ce que vous pourrez dire à votre buraliste désormais. Il suffira d'aller au tabac pour acheter un simple billet de train. Le gouvernement lance officiellement l'expérimentation dans 5 régions de France. Mesure bien accueillie dans le Maine-et-Loire. Reportage de Nicolas Bobby à Chalonne.
En prenant son journal, Gérard peut désormais acheter son billet de train et le payer en espèces.
Ben, si je veux aller prendre un billet, il faut que j'aille à la gare, faut que je prenne ma voiture. Bon, ben, comme ça, ça sera portée de main, comme dit l'autre.
Le gérant du Café des Halles, Gaël Prulot, dispose d'une tablette informatique.
C'est un service supplémentaire qu'on va apporter aux personnes de Chalonne. Il suffit de me dire où est-ce que vous voulez aller et puis c'est parti. Il y a une gare de départ, une gare de... d'arriver.
Le billet s'imprime silencieusement. Avantage non négligeable, l'amplitude horaire. Le buraliste ouvre à 6h30, ferme à 20h. Laurent Eisenman de la SNCF Pays de la Loire.
En fait, SNCF est confronté à une baisse de la fréquentation de ses guichets physiques. C'est de nouvelles habitudes d'achat de nos clients qui vont plutôt aujourd'hui sur les smartphones et sur Internet. Donc on a eu 40% de fréquentation en moins depuis 2014. Face à cette situation, on s'est dit, il va falloir qu'on trouve des nouvelles solutions et aller au-devant du client.
Revers de la médaille, prochainement le guichet de la gare de Chalonne-sur-Loire disparaîtra.
Reportage de Nicolas Bobby. Si vous préférez la voiture, à noter que Bison, Futé, Voie Rouge dans le sens des départs demain. On passe à la météo. On a eu très chaud. Eh bien, les orages arrivent. Bonsoir Valérie Quintin.
Bonsoir. Effectivement, il y a de gros orages ce soir dans les régions centrales et dans l'Est et ça va continuer demain. Alors principalement, encore une fois, dans l'Est et dans le centre du pays, des orages forts avec localement de grosses pluies, de la grêle, des bourrasques de vent assez sérieuses. À l'arrière, pas mal d'averses sur une bonne moitié ouest, avec un petit peu de chance quand même, la Bretagne. Et ensuite, les départements glissant jusqu'à la Gironde pourront récupérer quelques éclaircies dans l'après-midi. Sinon, ce sera donc une journée très orageuse sur tout le territoire, avec des températures qui évidemment vont baisser. Elles seront comprises entre 13 et 23 degrés au réveil entre Brest et Nice. Dans l'après-midi, comptez 20 à 31 degrés avec 21 sur Toulouse, 22 à Paris, 23 à Lille, 25 degrés à Lyon. Il fera 26 à Colmar, 27 degrés à Gap et 30 à Marseille.
Merci à vous Valérie Quintin. On marque une pause et on retrouve Laissez-vous tenter sur RTL.